Bonjour à tous, bonjour à toutes. Septembre est synonyme de rentrée. Comme chaque année, c'est immuable dans le temps. Écofolie aussi fait sa rentrée. Et justement, on va essayer à travers cette émission de voir cet impact à plusieurs niveaux d'ailleurs. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Prêt pour cette rentrée ?
Ah oui, surtout que le terme rentrée est lié en fait à l'histoire scolaire, puisqu'on est loin de l'année civile.
Oh, tout à fait.
Et pour la majorité des gens, l'année fonctionne de cette façon, effectivement. Septembre est la rentrée, c'est rentrée des enfants, c'est les vendanges dans les campagnes, c'est la fin des foins, c'est la levée des céréales. Historiquement, effectivement, on pourrait dire que l'an nouveau pourrait être au mois de septembre.
D'accord. Donc la rentrée, tout simplement, proprement dite, est-ce qu'elle est porteuse d'économie ? Je suppose que oui.
La rentrée, elle est très, très importante en termes économiques, parce que c'est l'heure des bilans. Beaucoup de gens étaient, comme les autres, un peu en repos, en vacances, dans l'optimisme, dans un certain plaisir de vivre. On arrive à la rentrée, il faut se confronter aux chiffres, aux courbes de vente, de moins dans les entreprises. Dans les organismes d'État ou dans les très grandes entreprises, il faut regarder la planification, regarder et faire les scénarios des mois qui viennent. C'est un moment très fort. Mais c'est aussi un moment très fort parce qu'on fait le bilan de tout ce qui s'est passé économiquement dans l'été. Donc, c'est très fort de ce point de vue, un côté bilan, que s'est-il passé dans l'été, et ensuite un peu de prospective. Par exemple, au niveau de l'État, on va parler dans les semaines qui viennent, dans le mois de septembre, du budget 2017.
Mmh. On va rester avec la rentrée. Justement, est-ce que la rentrée, le tourisme, normalement se finit ? Quel impact le tourisme a sur la rentrée ?
Alors, ce sont les résultats du tourisme, en fait, cette sorte de bilan. Vous l'avez entendu sur d'autres chaînes, d'autres radios, vous l'avez lu dans les journaux. La période touristique pour la France, qui était le grand pays du tourisme au niveau mondial, évidemment n'est pas aussi bonne. Et c'est les conséquences des attentats qui ont eu lieu en France, mais aussi en Europe. Par exemple, la capitale, donc la région parisienne, a vu son tourisme, c'est les chiffres, seraient moins 7% par rapport aux années précédentes. Voilà. Alors c'est important et tout en n'étant pas si fort que ça. Mais certains touristes ont été très 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 peu nombreux. Par exemple, les Américains. À Paris, on a vu très peu d'Américains cet été. Mmh. Voilà.
Est-ce mais qu'il faudrait contre, justement créer un type de tourisme automnal ?
Oui, mais bien sûr. Mais il y a des pays qui ont profité de ce transfert. Et paradoxalement, un pays qui profite beaucoup de tous ces événements, c'est la Grèce. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un effet très positif sur l'économie grecque, et pourquoi pas. Mais aussi l'Italie en a profité beaucoup, les pays, la Croatie par exemple, l'Espagne, on peut citer également, le Portugal. Et puis ensuite il y a un glissement du tourisme au niveau de la saison, mais ça c'est un glissement qui se fait depuis des années, effectivement, historique. Mais le tourisme est une industrie importante, et d'ailleurs, on peut signaler d'ailleurs que sur le Volvestre, en ce qui concerne Rieux, ceux qui ont eu l'occasion de passer régulièrement dans le Rieux historique, dans le vieux Rieux, dans le quartier de la cathédrale, ont pu constater qu'il y avait une augmentation, c'est très visible, du nombre de touristes visiteurs. Hein. Il y a eu un effet justement du classement de Rieux hein, dans les beaux villages de France.
Oui, c'est vrai. Alors on va passer à une autre folie. On a passé un printemps difficile, surtout pour l'agriculture, et c'est donc avec eux qu'on va continuer cette émission. Quelle rentrée peut espérer la profession agricole ?
Voilà, c'est là aussi typiquement un élément de rentrée. On fait le bilan des récoltes, on se projette un peu dans l'avenir. Il n'y a que pour le vignoble où on peut dire à la fin août qu'on n'a pas, on ne peut pas prendre une idée très précise, on n'a pas une idée très précise. Mais en ce qui concerne par exemple les deux grands secteurs, les céréales et les oléagineux, ainsi que la viande et le lait, eh bien ces deux secteurs connaissent des problèmes. Alors, en ce qui concerne le lait, des mesures ont été prises, de stockage, etc. Mesures qui vont être appelées à s'arrêter dans l'hiver. Que va-t-il se passer au niveau agricole, puisque la demande mondiale de lait n'a pas augmenté ? Elle se devrait augmenter, mais pour l'instant, elle ne l'a pas fait. Donc il y a un phénomène, la crise est en quelque sorte un peu reportée, on le sait bien, les techniciens le disent, hein, les syndicalistes agricoles le disent, ça a permis effectivement à certains agriculteurs de survivre. Mais à cela s'ajoute une crise nouvelle, qu'on ne connaissait pas tout à fait et qui est forte, c'est le secteur des céréales et surtout le cœur de des zones de céréales, c'est-à-dire le centre de la France. On n'est pas concerné, nous, dans la région Midi-Pyrénées, par ces problèmes de météorologie au printemps. Le printemps a été des alternances de pluie, de beau temps, de chaleur, de pluie et de froid. Dans le nord, dans le centre, la récolte de céréales est catastrophique. Il faut être clair là-dessus. Environ 40% de la moyenne habituelle. C'est énorme, énorme. Et derrière, bien entendu, le prix mondial a continué à diminuer. Parce que d'autres régions dans le monde ont, elles, des récoltes fabuleuses, au-delà de l'habitude. On parle en particulier de l'Ukraine ou de la Russie, par exemple. Et donc, ce monde agricole, qui concerne pour l'essentiel de gros agriculteurs, ce sont de gros exploitants, eh bien, va se trouver face vraiment à une difficulté majeure. Donc, que va faire le ministère? Que va faire l'État? Ce sont les plus gros des agriculteurs. C'est eux qui, déjà, touchent les plus grosses subventions de Bruxelles. Il va bien falloir les aider à passer ce cap. Mais qu'est-ce que ça signifie, l'image de l'agriculture, auprès de nos concitoyens? Comment expliquer qu'une exploitation agricole gagne et on lui verse 400 euros par hectare, elle a 300 ou 400 hectares, et à côté à quelqu'un qui vit du RSA? Moi, je pose toujours cette question. Derrière l'économie, il y a la réalité sociale, il y a la relation entre les individus et la richesse, comment elle est répartie.
Alors justement, les jeunes agriculteurs dans tout ça, comment eux vont-ils faire? Parce que on le sait, on en côtoie tous les jours ici des jeunes agriculteurs qui s'installent. Eux, ils doivent tout faire. Ils doivent s'installer, ils doivent s'équiper, et ils doivent travailler, ils doivent emprunter, et ils croulent sous les dettes. Et donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup de suicides de jeunes agriculteurs. Comment on pourrait sortir, quand on entend ce que vous venez de dire, qu'on va encore re-aider les plus gros agriculteurs, il y a une inégalité encore une fois?
Oui, il y a une inégalité. Donc je dirais très simplement, sur le site de Radio Galaxie, il faut regarder l'émission, réécouter l'émission sur l'agriculture, qui date maintenant de quelques mois, mais qui était ce printemps. Pour reprendre par rapport aux jeunes agriculteurs, on peut dire schématiquement qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont jeunes agriculteurs et qui prennent la succession de leurs parents. Soyons clairs, ce n'est pas le même problème que celui qui veut être agriculteur, qui a les diplômes et les formations pour être agriculteur. Là, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes filles. Et qui veut s'installer, c'est-à-dire qui veut acquérir de la terre pour mener son projet, la louer ou l'acheter. Et c'est différent de celui qui a déjà la terre, si vous voulez. Et c'est là la grosse différence. Donc, dans notre région, en particulier dans le pays du Sud Toulousain, on a une demande d'installation d'agriculteurs qui n'héritent pas de terre ou qui héritent de très petites propriétés. Ces gens-là ont souvent des projets de vie, des projets de faire une agriculture autre, souvent orientée dans le bio, et puis aussi dans le circuit court. Et ceux-là ont des difficultés énormes à être installés. Ça, c'est sûr, c'est un gros problème. Ce n'est pas propre au Volvès, mais dans le Volvès, c'est très, très aigu. Mmh. Alors, ce n'est pas Radio Galaxie qui va régler le problème, mais soyons clairs. Ce n'est pas telle ou telle commune qui peut le régler. Nous le savons tous. Hein. Mais quand même, je crois qu'il faut prendre conscience de ce phénomène d'une manière très forte et de dire quelque part que dans l'agriculture, il va bien falloir que nos collectivités territoriales s'en occupent un peu et jette un regard et une aide. Il y a quand même derrière l'aménagement du territoire, que va devenir notre Volvès alors qu'on dépend de plus en plus de l'agglo. Et bien sûr, on sera une banlieue, certainement, dans 50 ans, soyons honnêtes. Et ensuite, de la qualité de notre alimentation, et ensuite, de la qualité de la relation sociale. Aujourd'hui, quelles sont les relations sociales pour un agriculteur qui est tout le temps dans son tracteur immense et qui a 200 ou 300 hectares à travailler? On ne le voit pas sur le marché, il ne vend rien en direct. Et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir des gens qui produisent localement, qui produisent de la qualité en termes bio, ils produisent tout de la qualité, soyons honnêtes. Mais est-ce que dans une relation avec les ménages, il y a une demande de la part des ménages, il y a une demande d'avoir une relation directe avec le producteur. Qui est-ce? Je le connais, il travaille à tel endroit, il travaille tel produit, il fait de bonnes choses. C'est important. Et là, si personne ne s'en occupe, on va se faire la concentration et la disparition de l'agriculteur petit dans notre région comme ailleurs.
Mmh. Alors, puisque nous sommes avec les agriculteurs, on va y rester un petit peu. Les producteurs de lait sont étranglés, les prix sont bas, pour ne pas dire très bas, et le numéro un mondial des produits laitiers, lui, ne veut vraiment pas plier. C'est une grosse multinationale, c'est vrai, mais il est classé quand même par le plus mauvais payeur des industriels. Donc, pourquoi tient-il à sa merci tout ce monde agricole, quoi, tout ce monde de producteurs de lait?
Oui, pourquoi? C'est la vraie question. Pourquoi les coopératives n'ont pas tenu le coup? Pourquoi elles n'ont pas résisté? Pourquoi elles ne se sont pas développées? Vous parliez d'une manière indirecte de l'entreprise Lactalis, soyons clairs. Et c'est vrai que c'est la première entreprise mondiale de lait, il faut le savoir. Et à l'origine, c'était un ensemble de coopératives. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans le monde agricole, ou est-ce qu'il n'y a pas eu une captation du véritable pouvoir de décision? Tous les agriculteurs sont des adhérents à des coopératives, quasiment tous. Quand vous discutez avec l'un et l'autre, ils n'ont pas le sentiment d'être des propriétaires de leur entreprise. C'est très curieux d'ailleurs, c'est très curieux. Hein? Un actionnaire de Peugeot, de Renault, il sait qu'il est actionnaire et il ira voter à l'Assemblée Générale. Que fait cet agriculteur? Donc ces entreprises coopératives, et d'une manière logique, hein, il ne faut pas non plus être trop braqué dessus, d'une manière logique pour être plus efficace, etc., pour s'ouvrir des marchés, se sont regroupés. Mais ça veut dire que le pouvoir s'éloigne du propriétaire qui est le petit paysan, et surtout, dans ce pouvoir, on fait appel à ce qu'on appelle des hommes de compétences, des directeurs ceci, directeurs cela, et qui viennent parce qu'ils viennent d'un grand groupe, et ils ne connaissent rien aux produits, rien à l'agriculteur, rien à la région, mais c'est eux qui vont travailler pour dégager la marge la plus importante.
Oui.
Lactalis, pour ne pas la nommer, a fait son meilleur bénéfice semestriel historique, là, en pleine crise du lait. Donc ça veut dire que Lactalis pourrait payer plus cher le lait.
Oui. Est-ce que ça risque de se faire?
Non, comment je ne sais pas. On risque beaucoup d'avoir à la rentrée, là, un peu plus tard, hein,
oui,
quelques manifestations d'agriculteurs sur la rocade toulousaine ou sur l'accès au péage Saint-Gaudens ou d'ailleurs, comme ils ont l'habitude de faire.
Oui. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ces producteurs de lait vont pouvoir vivre enfin un jour de leur revenu, de leur travail?
Certains en vivent. Ceux qui ne sont pas endettés en vivent ou en survivent. Ceux qui ne sont pas endettés et qui ont un cheptel très important, même si le prix du lait est très bas, sont dans une situation d'attente, ce n'est pas extraordinaire, mais demain le prix du lait remontera. Mm-hmm. Quand le prix du lait était élevé, on ne les entendait pas. Et ils faisaient de très bons revenus.
Mmh.
Voilà, certains ont peut-être épargné d'une manière de précaution, peut-être. C'est fluctuant, c'est un marché mondial. Ils l'ont voulu, ils l'ont.
D'accord.
Mais d'autre part, il y a d'autres technologies peut-être pour vivre avec le lait. Hein, pourquoi confier son lait à l'état brut, à la coopérative, et ça partira en yaourt ou en crème, ou ça sera surgelé, congelé, que sais-je, ou en poudre de lait? Et pourquoi on ne fait pas soi-même ses yaourts? Pourquoi on ne fait pas soi-même son fromage? Pourquoi on ne fait pas ceci et cela directement au producteur? Il y en a plein qui le proposent maintenant. On en a sur la commune, on en a à Salles, on en a à Goutte-Vernis, on en a à Montesquieu et dans les communes autour de Montesquieu. Combien qui tentent de vendre leurs produits laitiers transformés avec la valeur ajoutée au lieu de la confier ailleurs, et bien ils essaient de la capter. Vous allez dans le Piémont pyrénéen, c'est même remarquable. En quelques années, le long de la route, il faut être clair, vous voyez apparaître vente directe à la ferme, telle ferme, yaourt, lait, fromage, etc. Et justement, ça vaut le coup d'y aller. Vous verrez, ces fromages sont délicieux, ont de la personnalité et les gens sont très accueillants. Voilà une bonne relation commerciale.
Oh oui.
Voilà. Mais ils tentent, ils réussiront, certains d'entre eux.
Mm-hmm. Alors, on va rentrer dans la troisième rentrée, si j'ose dire. Hein. La France rentre dans une phase de politique électorale, et qui plus est, avec une période très fragile et de l'instabilité, une guerre qui ne veut peut-être pas dire tout à fait son nom. Comment est-ce qu'on peut préparer un budget pour un pays comme la France pour 2017? Parce que les conditions ne sont pas du tout très favorables, quoi.
Elles ne sont pas très favorables pour faire un budget, disons, dynamique, c'est sûr, puisque nous sommes toujours dans un déficit, certes un peu plus bas que prévu, parce qu'il y a eu de la croissance ces deux premiers trimestres. Et autre élément qu'il faut prendre en considération, nous rentrons dans une période électorale, mais il en est de même en Allemagne. Il faut aussi ne pas l'oublier. Et donc en période électorale, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le pouvoir en place ne cherche pas à mécontenter des catégories d'électeurs. On essaie d'adoucir, d'arrondir. Donc c'est vrai que c'est jamais des périodes dans les démocraties. Si on avait une dictature, d'ailleurs je ne serais peut-être pas autorisé à parler. n'est-ce pas? Dans une démocratie, évidemment, on prête attention à celui qui va voter. C'est un inconvénient peut-être du système, soyons... voilà. Mais, donc... on peut sentir que la préparation du budget pour la France, comme ce qui se passe en Allemagne, il n'y aura aucune mesure extrêmement dure pour qui que ce soit. On va essayer, je suppose, le gouvernement d'arrondir, et il a un peu de chance. Il a un peu de chance, voilà, de chance, bon, et de résultats de certaines politiques aussi. C'est que la croissance était repartie jusqu'à présent. On verra les chiffres de l'été, mais... Il y avait quand même un petit taux de croissance, pas extraordinaire, mais un petit taux de croissance qui permettait quelques espoirs. Et surtout, ça a eu un effet aussi sur l'emploi. Comme les radios, les ministres, les députés s'en gargarisent et les membres de l'opposition se moquent. Mais malgré tout, comme dit l'INSEE, la courbe du chômage s'est inversée. Alors, ce n'est pas prodigieux, hein. D'ailleurs, pour préparer l'émission, je me suis replongé dans les fiches ce matin, effectivement, de l'INSEE. Je parlais des résultats publiés par l'INSEE. Et ce n'est pas prodigieux, mais c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant parce que ça touche toutes les catégories de chômeurs, en fait. Il y a beaucoup moins de chômage chez les seniors, bizarre. Il y a moins de chômage chez les plus jeunes, étonnant. Moi, ça m'a un peu étonné. Donc, je dirais quelque chose... La cerise sur le gâteau, c'est que cette petite amélioration dure. Ça serait très bien pour le budget. Parce que ça signifie des rentrées fiscales meilleures. Et donc, il y a peut-être des mesures qui étaient prévues de serrer tel ou tel budget qui ne seront pas prises. Mais je rappelle quand même, et j'en profite, pour dire que lorsqu'on parle du budget de l'État, il faudrait plutôt de parler des dépenses publiques. L'État, c'est une chose, avec son déficit qui doit être réduit, ô combien, personnellement, ça me paraît normal, mais il y a derrière les collectivités territoriales. Et les bons chiffres du budget de l'État depuis 2 ans se sont faits largement sur le dos des collectivités territoriales, il faut être honnête. C'est-à-dire que l'État qui reverse, si vous voulez, ce qu'on appelle des dotations vis-à-vis des communes, etc., etc., ben, il a réduit énormément ce qu'il reverse. Et donc ce sont les communes, les collectivités locales qui ont réduit leurs dépenses et qui ont augmenté aussi leurs impôts. Et ça, chacun peut regarder sa taxe foncière, sa taxe d'habitation depuis 3 ans. Bien sûr, je vous passe la tarte chaude. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et ça, c'est cette réalité. Donc, ce qui serait bien pour un budget 2017, qui est en préparation, c'est qu'effectivement, le budget de la France soit réduit un peu plus. On continue à le réduire. Je crois que ce serait une très bonne image internationale. Et ensuite, certainement, et ensuite, que les collectivités locales ne soient pas trop pénalisées. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne se mettent pas à poursuivre des augmentations d'impôts qui touche là, dans certains cas, quasiment tout le monde, soyons honnêtes. Je pense que ça se fasse d'une manière plus facile. Voilà, ça devrait être un budget plus consensuel. Alors, en ce qui me concerne, je l'explique pourquoi. Personnellement, je souhaiterais qu'ils allègent les collectivités locales, mais je voudrais un budget plus offensif, personnellement, par rapport à l'économie. Mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'en période électorale, on ne peut pas bousculer tout parce que c'est les électeurs qui sont derrière. Donc on essaie d'être consensuel.
D'accord. Est-ce que ce budget va dépasser la période des élections ou est-ce qu'après la période des élections, on va revenir les pieds sur terre?
Ah, ça c'est une question technique en fait. Parce qu'on vote un budget, ça se fait, il y a des règles très précises dans notre République comme dans les autres. On le vote à l'automne. Très précisément, on en débat, on modifie, etc. Et puis il est voté. Donc c'est un budget qui s'applique au 1er janvier. Mais rien n'empêche tout au long de l'année de faire des mesures modificatives, comme dans les communes. D'accord. C'est-à-dire on a voté quelque chose et on peut le modifier en tenant compte de règles précises. On ne va pas rentrer dans la technique. Oui. Mais on peut le modifier. Donc, que fait un gouvernement, un nouveau gouvernement ? D'entrée, il modifie. Il modifie. Il enlève des crédits là pour les mettre ailleurs. C'est selon ses priorités et c'est bien. D'un point de vue démocratique, il faut être clair, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Les nouveaux élus appliquent leur programme. Ils peuvent modifier le budget. C'est normal.
Mm-hmm. Justement, quel impact aura cette campagne électorale pour l'économie française ?
Alors, pour l'économie française, la campagne électorale, comme dans les autres pays, c'est la même chose actuellement en Allemagne, pour certaines entreprises, pour certaines collectivités, il y a de l'attentisme, comme on dit. C'est-à-dire, on a un projet. On se dit, sur tel projet, je prends un exemple, une mairie. On a un projet, pourquoi pas, d'une piscine couverte pour la communauté de communes du Volvès. Voilà un projet qu'il faudra bien un jour se faire, si on ne veut pas prendre celle de rue. N'est-ce pas ? Bon, un projet. Donc, on fait des estimations, on cherche le terrain, on bâtit le projet, on voit des coûts, on fait faire travailler des architectes, des spécialistes, les règles de sécurité, etc. Ça s'agglomère et on commence à avoir des idées de coûts. On peut même avoir des prises à appel d'offres pour avoir des estimations. Ça, c'est ce qu'on va dépenser. D'autre côté, comment on le finance ? Donc, on travaille, comment on va faire le prix du ticket, que vont verser les communes, proportionnellement aux habitants, aux revenus fiscaux. Bon, il y a un débat complexe, mais démocratique, c'est très bien. Et là-dedans, il y a, dans le financement, il y a les gens, ce qu'ils payent, les communes, ce qu'elles paieront, et puis l'État. Ou la région, la subvention de la région, on va aller voir Mme Delga, la subvention de l'État, on va aller voir M. Sapin, etc. Et à partir de là, on se dit, voilà, la boîte est faite, quoi. Oui, mais le nouveau gouvernement, s'il décide d'enlever des crédits au ministère des Sports, la piscine, au lieu d'avoir 500 000, on n'aura peut-être que 200 000. On attend. C'est ce qu'on appelle l'attentisme. Deuxième exemple. Et ça pénalise un peu l'économie. Au lieu de lancer l'opération, oui. On attend. Deuxième exemple, les entreprises, c'est pareil. Une grande partie des entreprises travaillent vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des collectivités. C'est la même chose pour équiper les écoles, etc. Donc, il y a plein d'entreprises qui dépendent de commandes venant de l'État, d'une façon ou d'une autre. Et donc, même prudence. Donc, ça entraîne un petit peu, il y a moins d'engagement, on fait des prévisions plus réduites, vous voyez ? Mm-hmm. Pour plein d'entreprises. Donc ça, un État, ça a une situation qui freine un peu l'économie.
Oui.
Ah oui.
Est-ce que notre situation de dette va plomber justement ce budget français ?
Chez les économistes, il y a deux écoles. Il y en a qui disent oui, déjà qui disent non. En ce qui me concerne, je serais pour dire que dans l'état actuel des choses, on a un endettement par rapport au PIB, on n'est pas loin de 100%, qui est très fort, qui personnellement n'est pas une bonne chose, j'estime, parce que on dépend trop de nos créanciers. Ouais. Si un jour on nous dit ta-ta-ta, vous êtes mauvais, on veut plus vous prêter, les taux d'intérêt vont monter, ça va nous coûter extrêmement cher, etc. C'est comme pour un ménage. Si on est trop endetté, effectivement, on prend un risque. Deuxième aspect, mais il faut bien quand même faire travailler notre économie. Derrière, il y a les gens, il y a l'emploi, etc. Donc, il y a aussi cette volonté sociale de marcher, finalement. Il faut avancer. Et troisième aspect, qui est purement économique, eh ben, paradoxalement, on est peut-être endetté. Mais les gens qui ne sont pas d'ici considèrent qu'on est extrêmement bien géré. Et donc, ils nous prêtent pour trois fois rien. C'est extraordinaire. L'argent des épargnants japonais, des épargnants chinois bientôt, Australiens, Indonésiens, Philippines, Afrique du Sud, eh bien, ils achètent des titres d'emprunt de l'État français. Extraordinaire. Quelle preuve de confiance. Nous, on n'a pas confiance en l'État, et eux, là-bas, ils nous prêtent, mais pour rien, à un taux inférieur à celui de la caisse d'épargne. Rendez-vous compte. Hein? C'est peu de choses. Ils nous paient, c'est ça. Et ça, c'est un effet de la crise au second degré. La crise a tellement inquiétés, dans certains cas, ruinés des organismes, des sociétés, des particuliers qui ont prêté à des États, que ceux qui ont beaucoup d'argent à placer, ben, ils le placent là où ça leur paraît le plus sûr. Ben, nous sommes un pays stable, comme l'Allemagne, comme les pays européens. Ah, attention, en Angleterre, déjà, l'Angleterre emprunte à un taux plus élevé depuis qu'ils se sont séparés, qu'ils ont voté le Brexit. ils ont moins de confiance des créanciers mondiaux. Ça a augmenté un petit peu. Ils payent un peu plus cher. Mm-hmm. Il y a eu un effet immédiat.
Oui. Vous voyez ? Justement, ça aussi, pour l'économie européenne, justement, cette séparation de l'Angleterre, est-ce que c'est vraiment un gros impact ?
Oui, ça va avoir un impact dans toutes nos relations commerciales et dans, la relation, et dans les mouvements de population. Donc, ça aura un effet là-dessus. Alors, dans quel sens ? Là-dessus, je vais demander aux auditeurs de se dire, on ne va pas patienter 2 ou 3 mois pour en reparler. Mais, quand même, cette décision anglaise, il faut être honnête, ça fout un peu le bordel. Et cette agitation, ben, c'est générateur d'économie quand même. Ils se réunissent, ils n'en parlent plus, on en parle les journaux, on fait des émissions de télé, etc. Et tout ça, c'est quoi ? C'est de l'activité économique. Donc quelque part, cette séparation, ça agite et peut-être, ça génère peut-être des créations de emplois, des déplacements, des gens qui imaginent autre chose. Il y a peut-être un côté positif derrière. Mais ça, attendons un peu encore quand même pour le voir, tout ce qui se passe. En tout cas, pour les Anglais, honnêtement, pour eux, ça n'a pas trop d'effet positif, il faut le savoir. Mmh. Ah oui.
Ils ont passé de bonnes vacances quand même, peut-être.
Ah, mais les Anglais, ceux qui ont les moyens, c'est comme la classe moyenne. C'est pas parce qu'il manque quelques pièces de monnaie au portefeuille qu'on va pas partir en vacances, se trimballer. Historiquement, les Anglais sont des gens qui parcourent le monde, il faut le savoir. Mais c'était très intéressant de parler de tout ça, d'ailleurs, lors du festival du film britannique à Montesquieu. Grand succès, bravo. Des films de très grande qualité. Beaucoup de monde, et là, tranquillement, on a pu parler Brexit avec l'un ou l'autre. D'une manière générale, et on les comprend, ils y étaient tous opposés. Hein, mais bon, c'est vrai qu'ils aiment notre Volvestre, notre pays, ils viennent tellement tous les ans pour certains, et certains y habitent toute l'année. Ne pas vraiment. Et donc, quelque part, ils n'étaient pas favorables au Brexit, soyons clairs.
Oui. Bien, ben, on va terminer donc là-dessus avec cette rentrée de septembre 2016. Et donc, Écofolie vient justement de faire cette rentrée avec cette émission. Bernard, par contre, cette rentrée, cette année, c'est un petit peu... Ben, il y a des nouveautés à chaque rentrée partout. Et donc, pourquoi pas aussi à Éco en Folie ? Alors,
bien sûr,
quelle est cette nouveauté ?
Bien sûr qu'il y a des nouveautés. La première, c'est que vraiment, si vous avez une question, une observation, un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous envoyez un mail à Radio Galaxie, à leur adresse. Et là, ça m'est transmis quasi instantanément.
Exactement.
Et donc, je vous répondrai personnellement si vous avez donné votre adresse mail.
Voilà.
Il n'y a pas de problème. Et puis c'est Éco en Folie, donc il faut continuer et rester dans la folie.
Et si un auditeur veut venir participer à l'enregistrement justement de Éco en Folie, qu'il vienne faire les fous avec nous.
Et oui, et on la prépare ensemble avant.
Et bien sûr.
Bien sûr.
Merci Bernard.
À bientôt.